Voici le journal présenté par Sébastien Berriot. Bonjour Sébastien.
Bonjour Benoît et bonjour à tous. Dans ce journal, les États-Unis confrontés à un nouveau scandale de harcèlement sexuel. C'est le célèbre ténor Placido Domingo, aujourd'hui directeur de l'Opéra de Los Angeles, qui est mis en cause. 9 femmes lui reprochent des gestes déplacés.
L'effondrement du pont de Gênes en Italie, c'était il y a un an tout juste. 43 morts et tout un quartier dévasté. Aujourd'hui, les habitants commencent à reprendre une vie normale. Reportage d'Antonino Gallofaro à suivre.
En France, le gouvernement a lancé, après l'accident de Gênes, un vaste recensement des ouvrages d'art. Beaucoup sont en mauvais état. La mission sénatoriale qui a travaillé sur le sujet préconise un plan Marshall pour tout remettre en état.
Les pompiers confrontés cet été à un risque d'incendie maximum en France, même dans les régions qui autrefois étaient plutôt épargnées. Nous verrons avec Lisa Guyenne que le réchauffement climatique est en train de faire évoluer les méthodes de travail des pompiers.
Et puis l'inquiétude des professionnels du tourisme à Cuba. Les vacanciers sont beaucoup moins nombreux cet été, conséquence directe des sanctions américaines qui interdisent notamment les bateaux de croisière d'arriver jusqu'à La Havane. C'est donc la nouvelle affaire MeToo aux États-Unis, un coup de tonnerre dans le milieu très feutré de l'opéra. Celui qui est mis en cause, c'est donc l'Espagnol Placido Domingo. La plus grande star mondiale de l'opéra est accusée de harcèlement sexuel. Des faits qui auraient démarré au début des années 80, 9 femmes ont accepté de témoigner dans une longue enquête réalisée par l'agence de presse AP. Le ténor, lui, nie tout harcèlement. À Los Angeles, correspondance de Loïc Piala.
Comment dit-on non à Dieu ? La question, une jeune chanteuse d'opéra se l'est posée devant les avances répétées de Placido Domingo. Dans le milieu, le ténor aux 4000 performances est aussi incontournable que puissant. La preuve, comme 8 des 9 accusatrices, cet artiste a préféré garder l'anonymat, inquiète des répercussions sur sa carrière. Mains baladeuses, bises baveuses, passage surprise dans les loges, promesses de promotion, coup de fil au milieu de la nuit, Placido Domingo était, selon des dizaines de chanteurs, danseurs, musiciens ou techniciens interviewés par l'agence IP, coutumier et des gestes déplacés, et cela depuis des années. L'Espagnol de 78 ans dit trouver ces allégations troublantes et inexactes, assurant qu'il a toujours cru que ses relations étaient consensuelles. L'Opéra de Los Angeles, qu'il dirige depuis 2003, a annoncé l'ouverture d'une enquête indépendante. De son côté, l'Opéra de Philadelphie lui a déjà retiré son invitation pour son gala d'ouverture le mois prochain.
Et dans l'affaire Jeffrey Epstein, toujours pas de résultat d'autopsie pour expliquer la mort de l'homme d'affaires dans sa cellule de prison. Le directeur du centre pénitentiaire de Manhattan a été muté et 2 employés suspendus pour défaut de surveillance. Jeffrey Epstein, qui a été mis en cause dans une vaste affaire de trafic sexuel de mineurs, se serait donné la mort. Difficile d'y voir clair une nouvelle fois dans les propos de Donald Trump sur les relations commerciales Chine-États-Unis. D'un côté, le président américain annonce le report à la mi-décembre des droits de douane qu'il souhaite imposer à quasiment tous les produits chinois importés aux États-Unis. Mais de l'autre côté, Donald Trump dénonce le statut privilégié de la Chine au sein de l'OMC, au détriment, dit-il, des États-Unis. Le président américain menace de quitter l'Organisation mondiale du commerce. Les manifestants qui défendent la démocratie à Hong Kong, toujours aussi déterminés. Un nouveau rassemblement a débuté ce matin à l'aéroport international de Hong Kong, même si pour le moment l'activité aérienne n'est pas perturbée. Hier, le blocage a été total. Des affrontements ont éclaté avec les forces de l'ordre dans le hall d'arrivée. La police a fait usage de gaz poivre pour disperser les protestataires.
L'Italie commémore ce mercredi le premier anniversaire de l'écroulement du port de Gênes qui avait fait 43 morts le 14 août 2018.
Oui, des commémorations sur fond de crise politique en Italie. Tous les protagonistes de la crise d'ailleurs devraient se retrouver tout à l'heure sur le lieu où le pont s'est écroulé il y a un an. Les habitants du quartier ont vécu depuis l'accident des mois difficiles dans un vaste chantier qui a traîné en longueur. Aujourd'hui, la structure du pont a complètement été retirée du paysage. Les habitants respirent enfin, même si ceux qui ont perdu leur maison restent très marqués par cet épisode douloureux. Reportage d'Antonino Gallofaro.
Ça ressemble un peu à un film d'un pays bombardé. Je ne sais pas, je pensais à Alep.
Franco Ravera représente les quelques 566 déplacés du pont Morandi. Il se tient devant un terrain vague où se trouvait leur maison. Elles ont été détruites. La loi interdit désormais toute construction sous les ponts.
Cela faisait 62 ans que j'habitais dans cette maison. J'y suis né. Avec moi, il y avait beaucoup d'autres personnes. Pour nous, c'était une habitude de nous voir chaque matin, s'accompagner, rester ensemble.
Avec l'aide de l'État, tous les déplacés ont été relogés. Franco Ravera a choisi le centre, mais la majorité est restée dans le quartier, sous le pont. La route de cette communauté brisée se poursuit et sort de la zone rouge à quelques dizaines de mètres seulement. Dans son garage, Salvatore Scialfo raconte comment il a vécu en endurant la démolition du pont tout juste achevé.
La destruction d'un pont, ça veut aussi dire respirer des choses qui ne seraient en réalité pas conseillées de respirer, voilà. En vivant ici, on entend aussi beaucoup de bruits de démolition. On entend jour et nuit ce marteau-piqueur qui continue de marteler le béton.
Mais malgré tout, la reconstruction du nouveau pont le réjouit. Un vent positif souffle enfin sur les traces du pont Morandi. Dans ce kiosque à journaux, par exemple, on salue la réouverture cette semaine de l'artère principale du quartier qui le reconnecte enfin à nouveau avec le reste de la ville.
Et l'accident de Gênes et ses 43 morts a entraîné une véritable prise de conscience sur la problématique de l'entretien des ponts. Prise de conscience, bien sûr, dans toute l'Italie, mais aussi chez nous en France. Un recensement des ouvrages d'art a été effectué. Au début de l'été, la mission d'information qui a travaillé sur le sujet a rendu ses conclusions. L'entretien des ponts va nécessiter de gros investissements. Beaucoup, en effet, sont en très mauvais état. La mission appelle à un plan Marshall d'ici à 2030, Hugo Charpentier.
Il y a le viaduc de Gennevilliers qui s'est affaissé au printemps 2018. Ce pont, en Seine-et-Marne, désormais fermé à la circulation, faute de moyens pour le réparer. Ou encore plusieurs ouvrages de régions de montagne dont les murs de soutènement sont fragilisés. Au total, près de 10% des ponts en France, soit 25 000, sont en mauvais état structurel. C'est le constat du sénateur LR du Pas-de-Calais, Michel Dagbert, l'un des rapporteurs de cette mission.
Sur ces 10%, il y a des endroits où une simple expertise est nécessaire. Et puis, il y a des endroits où, effectivement, la il y a des problèmes de structure et donc il faut y intervenir rapidement et de manière lourde. Il s'agit à la fois de ne pas affoler outre mesure, mais de rappeler à quel point cette question doit être prise au sérieux rapidement.
La mission parlementaire préconise une dizaine de mesures. Parmi elles, un investissement massif d'1,3 milliard d'euros d'ici 2030 pour les communes et les départements. Les collectivités locales devenues responsables de nombreux ouvrages depuis le désengagement de l'État sur les routes nationales. C'était au milieu des années 2000.
C'est-à-dire que pour avoir un service avec des ingénieurs spécialisés en ouvrages d'art, il faut avoir déjà les moyens de les rémunérer. Ça n'est pas le cas de tous les départements et encore moins celui des communes.
Autre mesure notable, la création d'un carnet de santé pour chaque ouvrage. Un élément essentiel, estime de son côté Christian Tridon. C'est le président du syndicat des entrepreneurs spécialistes de travaux de réparation et de renforcement de structure.
Ce carnet de santé, c'est une fiche qui dit comment on doit surveiller ce pont et quels sont les niveaux d'entretien qu'il faut faire régulièrement. C'est la moindre des choses, mais c'est ce qu'il faut faire. On ne le faisait pas. Et on ne le faisait pas parce qu'il n'y avait qu'un seul gestionnaire il y a longtemps, c'était l'État. Mais on ne l'a plus, ça. Comment vous voulez gérer un pont que vous ne connaissez pas? C'est pas possible.
Toutes ces préconisations devraient être discutées au Sénat dès le début du mois d'octobre.
Merci Hugo Charpentier. Le taux de chômage a légèrement baissé en France au deuxième trimestre, moins 0,2% selon les chiffres de l'INSEE, ce qui donne un taux à 8,35% de la population active, département d'outre-mer compris. Il s'agit selon l'INSEE du plus bas niveau depuis début 2009. Les pompiers en état d'alerte en raison d'un risque d'incendie qui est maximal en ce moment sur de nombreuses régions, avec la canicule du mois de juillet et la sécheresse qui a battu des records cette année. Tout est réuni pour faciliter les départs de feu. Et c'est d'ailleurs désormais la même situation que l'on retrouve chaque été. Les pompiers, eux aussi, subissent les effets directs du réchauffement climatique qui les oblige au fil des années à faire évoluer les méthodes de travail. Lisa Guyenne.
Depuis une dizaine d'années déjà, les pompiers ressentent les effets du changement climatique. Davantage d'incendies en forêt et dans les champs pendant l'été. Le capitaine Alexandre Joissard travaille en Seine-et-Marne. Il est porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
On n'a pas de secteur qui n'est pas concerné par cette hausse. L'Indre-et-Loire récemment a été touché par de nombreux feux de récolte qui ont été plus importants qu'à l'habitude. Les pins en forêt de Fontainebleau, pour certains, sont totalement secs et Donc cela va créer un risque plus important et un feu de forêt, comme nous avions par le passé avec beaucoup de feux de tourbe, pourrait se transformer dans des feux qui courent plus rapidement et qui sont plus violents.
Alors pour se prémunir, les pompiers font appel à des collègues d'autres départements. Ils renforcent la prévention. Ils adaptent aussi leurs moyens techniques.
On a plusieurs points d'eau en région parisienne, avec la Seine évidemment. Et ce sont des zones qui n'avaient pas été testées jusqu'à présent. L'an passé, nous avons fait des tests avec les Canadairs. Je sais que de nombreuses régions commencent à réfléchir s'ils devaient être confrontés à un feu très important dans les prochains mois, dans les prochaines années.
Mais à terme, avec la multiplication des risques naturels, il faudra bien finir par investir, réclame la Fédération.
Le lien qui est important à faire, c'est de se rendre compte de ce que préservent les sapeurs-pompiers. Souvent, on parle des vies humaines, évidemment, mais on ne parle pas forcément toujours de ce qui a pu être sauvé en termes de bâtiments, d'environnement. Et c'est quelque chose qui, justement, doit être chiffré pour pouvoir permettre de dire un avion qui coûterait 800 000 euros, un véhicule qui coûterait tel ou tel prix, c'est peut-être pas grand-chose par rapport à ce qui a été sauvé grâce à ce moyen-là.
Une problématique qui vient se rajouter au manque de moyens déjà dénoncé par les soldats du feu. Partout en France, plusieurs dizaines de services sont en grève symbolique depuis la fin du mois de juin.
Les habitants de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe sont descendus dans la rue hier pour défendre leur hôpital. Plusieurs milliers de personnes rassemblées pour soutenir les personnels du CHU qui sont en grève. L'hôpital de Pointe-à-Pitre a été touché par un gros incendie il y a 2 ans et depuis les syndicats dénoncent des dysfonctionnements faute de moyens suffisants. Le tourisme est la principale source de revenus à Cuba, mais cet été, le secteur est en souffrance. 10% de touristes en moins prévus en 2019. C'est un effet direct des sanctions américaines, notamment la décision de Donald Trump au mois de juin d'interdire les bateaux de croisière à Cuba. Terminé les paquebots qui faisaient descendre donc sur l'île des milliers de croisiéristes. Tout Cuba est touché, notamment les travailleurs indépendants. Le reportage de Domiti Piron à La Havane.
En plein cœur de la vieille Havane, Valentino, un jeune entrepreneur du secteur indépendant, a mis 2 ans pour restaurer un vieil immeuble et il est encore dans les derniers ajustements de ses chambres d'hôtes. Pour l'instant, il n'est pas affecté par la baisse de fréquentation touristique, mais il la ressent et s'en inquiète.
On voit le flux de touristes dans cette rue. Avant, ils montaient et descendaient par groupe de 8-10. Et d'un coup, on voit qu'il en passe 5. Un peu plus tard, il y en a 2 qui descendent. Et les petits magasins de cette rue qui vendaient de l'artisanat ont déjà fermé et se sont reconvertis.
Dans le quartier près du port où débarquaient les paquebots américains, désormais interdits de voyager sur l'île par Donald Trump, Alexander Guerra tente désespérément d'attirer des touristes sur sa calèche pour un tour de la ville. Depuis début juin, il a perdu 50% de sa clientèle. Lui, comme beaucoup de travailleurs indépendants qui avaient parié sur le secteur touristique pour améliorer ses conditions de vie, est déçu.
Imaginez si ce monsieur est élu pour 4 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Ce président Donald Trump ne pense qu'à la politique, mais du peuple, qu'est-ce qu'il en pense? Parce qu'à la fin, les conséquences, c'est le peuple qui les paye.
En parlant des Américains et du secteur touristique avec les Cubains, ils expriment une sorte de nostalgie de l'époque de Barack Obama. Le rapprochement entre Cuba et les États-Unis en 2015 avait donné beaucoup d'espoir aux travailleurs indépendants. Mais en 2019, les sanctions américaines devraient réduire de 10% le tourisme sur l'île par rapport à l'année dernière. L'État semble peu affecté car les grands hôtels et les circuits touristiques étatiques ne recevaient déjà pas d'Américains.
Reportage à Cuba. En Afrique du Sud, c'est l'un des emblèmes du pays et il est aujourd'hui en danger. Il s'agit de l'éléphant. Le pays en compte plus de 20 000 dans le parc Kruger. C'est l'une des plus grandes réserves animales naturelles du continent africain. Les pachydermes sont touchés par la tuberculose humaine. Les autorités sanitaires sud-africaines dans les parcs sont en état d'alerte, comme a pu le constater Noé Ochebaudin.
L'hélicoptère du parc Kruger vient d'anesthésier un jeune éléphant. L'opération va prendre 1 heure. La vétérinaire Michelle Miller procède à une bronchoscopie grandeur nature. Selon le docteur Peter Buss, l'inconnu subsiste sur le comportement de la bactérie chez un éléphant de 6 tonnes.
On n'a pas encore d'idée claire là-dessus, donc c'est peut-être un éléphant qui a été contaminé. Il y a certaines espèces qui sont exposées à la bactérie, mais qui sont très résistantes. Donc elles ne contractent pas la maladie.
Les autorités sud-africaines s'interrogent encore sur la façon dont la tuberculose a fait son entrée dans le parc. La vétérinaire Michelle Miller.
Il y a plusieurs possibilités. C'est peut-être des déchets laissés par les braconniers ou alors des déchets laissés par des touristes.
Pour l'instant, hélas, pas de traitement miracle. Michelle Miller utilise les mêmes produits que pour les humains.
C'est un traitement de 15 mois et administré quotidiennement, mais c'est vraiment difficile et très cher, environ 60 000 $ par éléphant.
Les autorités sanitaires redoutent une bombe à retardement car la période d'incubation de la tuberculose est de 10 ans chez les éléphants.
Une météo ensoleillée sur une large partie du pays aujourd'hui, du sud de la France jusqu'à l'Alsace et la Lorraine. Comme hier aussi, de la pluie sur la Normandie, les Hauts-de-France et la Bretagne. Vous aurez cet après-midi 20 degrés à Nantes, 18 à Rouen et 23 à Bayonne. Il est 8h15 sur France Culture. Merci d'avoir suivi ce journal qui a été préparé avec Martin Descloseau. La suite des matins d'été, maintenant Benoît Bouscarel.
Merci Sébastien Berriot et à tout à l'heure. Dans un instant, on s'intéresse aux suites de l'affaire Weinstein. Après le moment Weinstein, il y a eu le mouvement MeToo. Comment évolue ce mouvement? Alors que sort aujourd'hui sur les écrans un documentaire sur l'intouchable Hervé Weinstein, nous serons en ligne dans quelques instants avec l'essayiste Laure Murat. D'abord, Natacha Triou, bonjour à vous.
Bonjour.
Un mot du journal de la culture qu'on retrouvera à 8h30. Aujourd'hui, vous nous parlez de Placido Domingo.
Encore une affaire dans la lignée de l'élan MeToo, mais dans le monde lyrique.
Merci, à tout à l'heure, 8h30.